Amen. Voilà, j'aimerais terminer donc la méditation de ce chapitre 22 de l'Apocalypse. Voilà, nous lirons les quelques derniers versets. Apocalypse 22, et nous lirons à partir du verset 16 et jusqu'à la fin. Et nous rajouterons deux autres petits textes. Donc Apocalypse 22, 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif « Vienne !» Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Que celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Et j'aimerais rajouter dans le chapitre 19, vous gardez le texte de base, mais dans le chapitre 19, à partir du verset 6e, j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et le verset 9, « L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Et nous rajoutons également dans le chapitre 21, voilà, verset 3, Apocalypse 21, 3, « J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles », et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Voilà, les choses que nous avons lues dans ces quelques versets et toutes les paroles que nous trouvons dans ce livre de l'Apocalypse, eh bien, ça nous dépasse. Ce sont des choses qui sont au-dessus de notre portée. D'ailleurs, même Jean, quand il a eu ses révélations, il ne pouvait pas décrire avec des mots humains. Tellement c'était glorieux, tellement c'était fort, puissant, il disait « c'est comme, ça ressemble ». Mais il ne pouvait pas décrire avec des mots humains, avec l'expérience humaine, tellement nous avons des esprits limités. Ce sont des choses qui nous dépassent, c'est dans le cœur de Dieu, c'est dans le plan de Dieu. Quel bonheur d'avoir la foi, quel privilège d'avoir la foi. Parce que eh bien, nous croyons dans ces choses, nous croyons dans le plan de Dieu, ce que Dieu va accomplir, il nous le révèle. Quel amour immense. Il nous le révèle, non seulement pour l'Église, mais aussi pour le monde, ayant la possibilité de se repentir et de revenir à lui. Je pense à Abraham, quand Dieu avait décidé, quand le péché était au comble de Sodome et Gomorre, et Dieu a décidé de détruire par le jugement ces villes. Eh bien, il dit à un moment, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Ça m'a toujours touché. Je me dis, mais comment Dieu, Il dit, je ne peux pas cacher à mon serviteur ce que je vais faire. Et pourtant, c'est un homme, Abraham. Et il lui dit, je ne peux pas. Et Dieu va révéler à Abraham ce qu'il va faire. Et Abraham s'est mis à intercéder, à prier, afin que le Seigneur épargne s'il y avait quelques justes dans ces villes de Sodome et de Gomorre. Quel privilège immense de croire en Jésus, de savoir à l'avance ce qui va se passer. Ce n'est pas angoissant pour nous de savoir ce qui va se passer, parce que notre avenir, il est glorieux. Pour les croyants, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, eh bien, notre avenir, il est glorieux. C'est une espérance immense dans les paroles que nous avons lues. Dans ces 5 derniers versets, nous découvrons à nouveau, eh bien, le cœur de Dieu. Nous retrouvons notre Sauveur, Jésus, son caractère, son plan, son appel, sa promesse et son grand désir que la grâce du Seigneur soit avec tous. Comme nous l'avons vu la dernière fois, Jésus a des noms glorieux. Il s'est révélé, par exemple, aux 7 églises d'Asie. D'ailleurs, l'Apocalypse a été adressé d'abord aux 7 églises d'Asie. Et nous nous apercevons que Jésus s'est révélé, mais avec des titres glorieux, extraordinaires. Et là, ce qui est touchant, il dit « Moi, Jésus ». Après toutes ces révélations, après tout ce livre d'Apocalypse, à la fin, il dit « Moi, Jésus ». Et c'est vrai que quand nous entendons le nom de Jésus, ça résonne dans le cœur de l'Église. Quand nous entendons le nom de Jésus, pour nous, c'est synonyme d'espérance, de salut, de pardon, de délivrance, de guérison. Le nom de Jésus doit être proclamé dans les Églises, dans nos cœurs, il doit résonner. Nous ne voulons savoir autre chose que le nom de Jésus et Jésus crucifié. Moi, Jésus. Il y a seulement 2 versets où le Seigneur Jésus se présente comme Jésus alors qu'il est remonté au ciel. La première fois où il se présente ainsi, c'est à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Quand Saul de Tarse a vu cette lumière, quand il a été arrêté dans sa course folle, eh bien, il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Mais simplement en entendant « Je suis Jésus », eh bien, c'est extraordinaire. Notre Sauveur, quel beau nom que le nom de Jésus. Quel beau nom, ce nom extraordinaire. Et à la fin de tout cela, il se révèle encore comme « Moi, Jésus ». Moi, Jésus. C'est aussi le côté humanité de Jésus, le côté Sauveur, le côté bon berger. Et celui qui est venu sur la terre, celui qui est mort pour nous sur la croix, ce côté humanité de Jésus, et vous savez qu'il reste des traces, et il restera des traces, ce sont la marque des clous. Dans le ciel, il y a encore la marque des clous, c'est étonnant. Moi, je vous dis que je ne comprends pas pourquoi, mais en tous les cas, il y a la marque des clous de Jésus, de la lance, c'est encore là. De dire devant Dieu, bien sûr, voilà, j'ai payé pour eux, j'ai versé mon sang. Mais dans le ciel où tout est parfait, tout est glorieux, il y a encore, eh bien, cette trace. Quel amour immense le Seigneur a manifesté envers nous, envers son peuple. Dans ce verset 16, il y a aussi le côté messianique de Jésus. « Je suis le rejeton de la postérité de David ». Il y a ce côté messianique. Jésus veut sauver les Juifs et les païens. Amen. Pour le peuple juif, il veut sauver, il se fait un peuple, et il veut sauver les païens. Donc je suis le rejeton de la postérité de David. Et il dit pour les deux, les juifs et les païens, je suis, il est l'étoile brillante du matin. Alors ça nous interpelle aussi, l'étoile brillante du matin, c'est l'espérance qui est là. La tradition juive, eh bien, quand on parlait de l'étoile brillante du matin, c'était comme un héros, OS, un héros qui vient pour délivrer le peuple et qui annonce le héros, AULT, qui lui proclame, eh bien, la délivrance, la sortie des ténèbres. Et c'est comme cette étoile du matin qui, cette transition entre la nuit, la fin des ténèbres, la fin de la nuit, et qui annonce l'aube, qui annonce un jour nouveau. Le héros qui annonce cette délivrance. Et Jésus nous dit la prophétie dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, si mes souvenirs sont bons, la fin du chapitre, il est dit « Non, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, mais le soleil de justice va se lever. » Jésus vient bientôt. Le soleil de justice vient bientôt. Celui qui nous délivrera complètement, parce que nous sommes sauvés en espérance. Mais Jésus va venir nous délivrer complètement et nous aurons à ce moment-là des corps glorieux. Ah, c'est extraordinaire. Hein. Si quelqu'un résistait encore à l'appel ce matin, Dieu va nous faire encore un appel ce matin, afin que nous puissions entrer dans l'arche. Vous savez, je pensais à cela tout à l'heure, je me disais, mais à l'époque de Noé, il y en avait beaucoup qui se moquaient de l'arche qu'il était en train de construire, il n'était pas tombé une goutte d'eau, etc. Mais peut-être qu'il y en a qui disaient, si c'était vrai, et si c'était vrai, et si la pluie va venir, et si, eh bien, le monde va être submergé, et si c'était vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il fallait qu'ils entrent dans l'arche. Et pour nous aussi, peut-être ce matin, quelqu'un se dit, mais si c'était vrai ces prophéties-là qui sont données par Dieu, et si c'était vrai que la terre est réservée pour le jugement, et si c'était vrai toutes les catastrophes qui vont arriver dans l'humanité, et si c'était vrai, c'est pas suffisant. Il faut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce et de ton secours. Dans le psaume 130, versets 5 et 6, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin, Israël, mets ton espoir en l'Éternel. » Je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Moi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. D'ailleurs, personne d'entre nous ne sait ce qui va se passer. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a un avenir et de l'espérance pour ceux qui se confient en lui. J'allais dire, arrivera ce qui doit arriver, ce que Dieu va permettre, ce que Dieu va... Voilà, arrivera ce qui va arriver. Qui avait prévu que ce que nous vivons depuis plus d'un an arriverait ? Personne. Il y a un an et demi, deux ans, on nous aurait dit, voilà, tous avec les masques, distanciation, on ne pourra plus faire... On aurait dit, mais c'est jamais arrivé, comment ça peut arriver ? Et c'est arrivé. Mais en tous les cas, dans les épreuves diverses, ce qui peut arriver, ce qui va arriver, Dieu nous tient dans le creux de sa main. Et ça, eh bien, nous devons avoir une certitude, une assurance que peu importe les vents qui vont souffler, peu importe ce qui va se passer, ce qui est important, c'est que nous soyons dans la main du Seigneur. Lui, il est capable de nous garder. Il est capable de nous garder dans la paix, dans cette assurance. On ne sait pas ce qui arrivera, mais nous savons que ce que Dieu a dit s'accomplira. Alors, d'ailleurs, l'esprit et l'épouse ne se trompent pas. L'esprit et l'épouse disent « Viens, viens Seigneur Jésus ». C'est le cri du cœur, c'est l'amour qui répond à l'amour. L'Église et l'esprit désirent que Jésus soit glorifié. L'esprit et l'épouse désirent que le Christ soit élevé et arrive dans son règne, vienne en Seigneur. C'est l'esprit et l'épouse qui désirent cela. D'ailleurs, c'est aussi une prière du croyant, une prière de l'Église, le Notre Père. Il est bien dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la prière du Notre Père, que ton règne vienne. Est-ce que nous sommes conscients que quand nous prions, quand nous avons prié cette prière, eh bien, est-ce que nous sommes conscients que nous disons « Seigneur, viens vite ». Seigneur, oui, je désire que ton règne s'établisse sur la terre. Seigneur, je désire que tu viennes chercher l'Église. Est-ce que nous sommes conscients, je ne sais pas, si nous sommes conscients de toute la portée de cette prière, que ton règne vienne. D'ailleurs, que ton règne vienne, est-ce que c'est notre désir, mais est-ce que nous œuvrons aussi pour que le règne de Dieu vienne ? Est-ce que nous œuvrons dans ce sens ? Vous allez me dire, mais nous ne pouvons pas. Et pourtant, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 12, il est dit « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Attendez et hâtez. Alors comment ? Comment nous attendre ? Je comprends, mais hâtez le jour. Eh bien, dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier » pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Le rôle de l'Église, la mission de l'Église, le rôle de chacun d'entre nous, c'est de communiquer l'Évangile, communiquer la parole de Dieu à ceux qui ne savent pas. Parce que comme je l'ai dit, c'est une chose de savoir et de dire « moi, tant pis, si je suis pas sauvé », c'est une chose, en connaissance de cause. Mais ceux qui ne savent pas, ceux qui ne savent pas autour de nous, et il y en a combien, qui n'ont pas l'Évangile, qui n'ont pas la parole de Dieu, qui ne savent pas ce qui va arriver, eh bien nous devons leur communiquer la parole de Dieu. Nous devons leur communiquer cet Évangile glorieux. Dieu nous associe à son plan glorieux. Enfin, l'esprit et l'épouse disent « viens », mais dans un sens aussi, parce qu'ici-bas, l'esprit désire que Jésus règne, mais il est tellement attristé, contristé, l'esprit de Dieu. Et l'Église est tellement persécutée. Je parle de la véritable Église sur toute la surface de la terre. Il y a de nombreux pays où l'Église est persécutée. Elle est bafouée, elle est moquée. On fait du mal. Et puis, il n'y a pas seulement que des hommes, mais il y a les principautés, les démons. Elle est attaquée par le diable, par les démons, par toutes ces principautés. Et puis, il envoie des faux prophètes et des faux docteurs. Mais c'est inimaginable combien l'enjeu est grand, combien il y a de puissances qui se dressent contre l'Église. Mais ce qui fait notre assurance, notre certitude, c'est les paroles de Jésus, dans Matthieu 16, Jésus dira « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. » Waouh ! Ça nous rassure. On se dit « Il y a tellement d'ennemis de la vérité, tellement d'ennemis de l'Église, tellement d'ennemis de Jésus. » Mais Jésus tient son Église dans ses mains. Les portes même de l'enfer ne peuvent rien contre l'Église de Jésus-Christ. Et ça, c'est une certitude. Et nous devons dire, bien, peu importe, nous sommes persécutés, nous le serons peut-être, mais Seigneur, nous voulons garder toujours les yeux fixés sur toi. Tu es le chef de l'Église, tu es la tête du corps qu'est l'Église. Celui qui a soif, vienne. Que celui qui a soif, vienne. Quelle invitation ! C'est la dernière invitation. Dernière invitation, que celui qui a soif vienne. Ce matin, est-ce que nous pouvons entendre encore une invitation du Seigneur ? Que celui qui a soif vienne. Oh, c'est beau, il a été décrit tous les fléaux, il a été décrit tout ce qui va arriver, il a été décrit le ciel, quelque aperçu du ciel, de la beauté, tout cela. Et Dieu, à la fin, il dit encore que celui qui a soif vienne. Ce matin, comme nous l'avions dit la dernière fois, c'est pas encore arrivé que Dieu dise, voilà, que celui qui se souille encore, c'est fini, il y a le jugement. Non, c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. C'est pas encore arrivé. La porte de la grâce, elle est ouverte. Que celui qui a soif, eh bien, vienne ce matin s'abreuver à ce torrent. Tout au long de la Bible, Dieu n'a cessé d'appeler son peuple, n'a cessé d'appeler le pécheur à venir à lui, ou à revenir à lui, auprès de Dieu. Pourquoi il nous faut être près de Dieu ? Parce qu'auprès de Dieu se trouve le pardon, la paix, l'espérance, la joie, le repos, la tranquillité, tout ce dont le cœur de l'homme a besoin. Vous voyez, quand on est loin de Dieu, le cœur il est agité, angoissé, on est dans l'inquiétude, on ne sait pas, on est troublé, on est dans les ténèbres. Loin de Dieu, eh bien, on pourrait avoir toutes les richesses, on est quand même malheureux. On est quand même malheureux. Mais près de Dieu, revenir à lui. Venir et revenir à lui. Alors, bien sûr, si je citais tous les appels de Dieu dans l'Ancien Testament et les appels dans le Nouveau Testament de Jésus, il nous faudrait encore 2 heures. Mais j'en ai juste pris 2 dans l'Ancien Testament, qui nous appelle à revenir à lui. Dans Job, au chapitre 22, verset 23, il est dit « Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes de ta tente l'iniquité. » Dans Joël, chapitre 2, verset 12, il est dit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à lui de tout votre cœur. » C'est un appel à revenir, c'est un appel à la repentance. On est chrétien, est-ce qu'on a besoin de se repentir ? Amen. Eh oui, il y a tellement de choses qui viennent comme ça sournoisement. Mais c'est un appel à la repentance, c'est un appel à l'abandon du péché même, c'est un appel à revenir avec un cœur ouvert, avec un cœur prêt à lui obéir, c'est un appel à l'obéissance, c'est un appel à marcher dans ses voies. Alors Dieu, eh bien, sera celui qui nous aidera, qui nous secourra, et jusqu'à la fin, l'amour de Dieu s'exprime, l'appel de son cœur. Il ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Mais c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Que tous nous parvenions à la connaissance de la vérité. Ça, c'est son désir le plus intense. Or, nous savons que tous ne seront pas sauvés, parce que la Bible nous le dit. Mais ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, et oui, que celui qui veut. Bien sûr, quand on dit que celui qui a soif, nous pensons à Jean 7, 37, cet appel de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie, comme dit l'Écriture, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si quelqu'un a soif, est-ce que nous avons soif ce matin ? Est-ce que nous avons soif de plus du Seigneur ? Est-ce que nous avons soif de plus de son esprit ? Plus de sa révélation, plus de sa connaissance ? Est-ce que nous avons soif de ces choses ? Et si nous avons soif, bien sûr, ça veut dire aussi que nous prions, que nous jeûnons peut-être pour que, eh bien, Dieu se manifeste dans notre cœur, dans notre vie, qu'il inonde notre cœur, qu'il inonde l'Église, parce que la solution vient toujours d'en haut. La solution vient de l'Esprit de Dieu. C'est quand l'Esprit de Dieu vient, eh bien, qu'il agit avec puissance. Et dans le livre du prophète Joël, il est dit « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. » C'est quelque chose de surnaturel, ça vient du cœur de Dieu. C'est pas des discussions humaines, c'est pas ça. C'est l'Esprit de Dieu qui vient, il nous apporte ce que nous n'avons pas naturellement. Et il nous permet de vivre des choses que nous ne vivrions pas naturellement, parce que l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est celui qui nous conduit dans ce fleuve glorieux et merveilleux. Quand il coule, il désaltère, il rafraîchit, il purifie, il renouvelle, il enlève de nos cœurs les branches mortes, ce qui est mauvais, et il y place, eh bien, la louange, l'adoration, la reconnaissance, le désir de nous rapprocher de Dieu. Il place sur nos cœurs le désir de témoigner, d'apporter à quelqu'un, eh bien, le témoignage de Jésus, afin qu'il se convertisse et qu'il vive. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, et je suis persuadé aussi, qui cherchent la vérité dans cette ville sans savoir où la trouver, dans cette région. Et il suffirait d'un témoignage pour qu'ils se tournent vers le Seigneur. Que Dieu nous aide et qu'il nous pousse, l'Esprit nous pousse à ce que le royaume de Dieu vienne. Et donc la bonne nouvelle sera prêchée partout, alors viendra la fin. Ce fleuve est un fleuve de vie. C'est un fleuve de vie extraordinaire. Dans les versets 18 et 19, je m'attarderai pas trop, mais je veux souligner quand même, parce que Dieu le souligne, ce qui est primordial pour Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole. Et combien de fois il est dit « j'atteste, l'ange atteste, moi j'atteste », etc., que c'est la vérité, c'est véridique. Parce qu'il y a beaucoup de doutes et d'incrédulité dans le cœur de l'homme, mais ce que Dieu a dit est la vérité. Tout ce que Dieu dit est vrai, tout s'accomplira. Et nous avons vu, bien sûr, cette parole s'accomplir dans nos vies. Nous avons vu des manifestations, des promesses de Dieu qui se sont réalisées dans notre vie. D'autres, certainement, sont à se réaliser, je ne sais pas. Vous attendez peut-être bien qu'une promesse s'accomplisse. Peut-être ça fait des mois et des années. Vous attendez qu'une promesse s'accomplisse. Bien, je veux me référer au prophète Habacuc. Au chapitre 2, Il dit, si elle tarde, la prophétie, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais le juste vivra par sa foi. Attendons, si Dieu nous a fait une promesse, attendons-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Quand Dieu a parlé, il tient sa promesse. Donc sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il confirme sa parole. Il est avec sa parole. L'Esprit nous conduit dans toute la vérité de la parole. Il y a un attachement, il y a quand Dieu a parlé, nous devons prendre au sérieux les paroles de Dieu. Ce n'est pas un livre comme un autre, c'est la parole de Dieu. Et il veut vraiment que nous puissions veiller sur cette parole, ne pas la modifier, la dénaturer. Quand il dit enlever, rajouter, c'est modifier. L'apôtre Paul était conscient aussi de ces temps qui arrivaient, de ces temps de la fin. Il dit dans les derniers temps, eh bien, aussi, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ils se donneront une foule de docteurs pour apporter des fables. Les fables, ça ne nous remet pas en question. Les fables, ça nous dit pas de la sainteté de Dieu. Les fables, c'est quelque chose qui nous étourdit, oui, qui nous endort, qui nous fait passer un moment. Mais c'est pas pour ça. La parole de Dieu, elle est donnée afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu, glorifier le Seigneur, que le péché soit séparé de notre cœur. C'est ce que Dieu veut. Donc, eh bien, il est dit de ne pas modifier cette parole. Et cette parole, finalement, vous savez que c'est elle qui va nous juger au dernier jour. D'ailleurs, Jésus le dit, je vous le cite, Jean chapitre 12, verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai donnée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Ce n'est pas un homme qui va juger, c'est la parole de Dieu. Alors, Dieu pourra nous dire, mais qu'est-ce que tu as fait toutes ces années où tu as entendu, où tu as lu, où il y avait ces exhortations, où il y avait ces promesses, où il y avait dans la parole de Dieu, qu'est-ce que tu en as fait? Voilà, c'est elle qui va nous juger, les uns et les autres, mais c'est pas un homme, mais c'est Christ avec sa parole. Les appels de Dieu, et ce matin encore, j'aimerais appeler dans un instant tous ceux qui ne sont pas encore dans l'arche du salut, tous ceux qui sont encore dans l'incertitude, tous ceux qui se disent « moi je ne sais même pas si je suis sauvé », eh bien ce matin tu peux avoir la certitude en te donnant au Seigneur, en confessant ton péché, en abandonnant ta vie au Seigneur, il mettra une certitude de l'Esprit dans ton cœur. Ce matin, il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. Est-ce qu'il y a du doute? Est-ce que, comme je l'ai dit, on n'est pas trop sûr? Alors, c'est vrai que des enfants, des fois, réfléchissent et se disent, mais si mes parents partent, et moi? Un jour, une monitrice d'école du dimanche a parlé du retour du Seigneur et une enfant elle n'a pas bien dormi. Et donc, la maman, au lieu de dire, ben, elle a été travaillée, elle a fait des reproches à la monitrice. Je me dis, mais que peut-être s'ils sont travaillés, ben qu'ils soient encore plus travaillés. Non, on veut le salut de nos enfants. Et s'ils n'ont pas dormi une nuit, et même trois nuits, et qu'ils se disent, bon, ce n'est pas la peur qui doit nous attirer au Seigneur, mais si quand même la peur nous amène à faire réfléchir, à dire, mais c'est vrai, ça va arriver comme ça, et moi je suis pas sûr d'être sauvé. Bien que Dieu vous bénisse ce matin, les enfants, ados, et bien que vous puissiez vous tourner vers le Seigneur. Parce que tout va s'accomplir. Et si vous voulez savoir comment ça va se passer, lisez tout le livre de l'Apocalypse. Si on n'est pas vraiment dans la foi, il y a de l'angoisse. Mais si on est en Jésus-Christ, c'est le livre le plus merveilleux, un livre d'espérance, glorieux. Vous vous rendez compte, Dieu nous parle de chez lui, comment c'est là-haut. Commencer chez Dieu, le ciel, c'est chez Dieu ça. Pour l'instant, il est dans notre cœur. Pour l'instant, le royaume, il est caché, il est dans notre cœur. Et Jésus est avec nous, là, dans notre cœur. Mais un jour, nous serons chez lui. Et alors là, plus de péché, plus de misère, plus de mal. tout ça aura disparu, mais il y aura la gloire de Dieu qui se manifestera. Alors viens à Jésus ce matin, il t'appelle. Enfant, ado, adulte, viens à Jésus, il t'appelle. Voyez, jusqu'aux dernières phrases de son livre, il appelle le pécheur et le chrétien qui s'est éloigné à revenir et à venir à lui, parce qu'il veut vous sauver. Le prix que Jésus a payé est tellement cher. C'est pas juste pour dire si tu veux, tu fais comme tu veux. Non, Jésus a payé le prix cher, c'est vraiment pour que nous puissions nous tourner vers lui. Celui qui atteste, il vient. Il y a des moqueurs, il y a des contestataires qui mettent en doute ces choses, mais ça ne change pas le plan de Dieu. Il vient. Oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt, dit Jésus. Alors ça veut dire quoi, je viens bientôt? Quelqu'un pourrait dire, oui, mais ça fait 2000 ans. J'avais dit la dernière fois, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Donc ça fait juste 2 jours. Bon, mais on va analyser d'une manière différente. Oui, je viens bientôt, ça veut dire quand tout sera en place, je viendrai rapidement, je ne tarderai pas. Là, il est en train de tout mettre en place. Vous vous souvenez de Jean 14, et je vais terminer, mais dans Jean 14, est-ce que quelqu'un se souvient de mémoire? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, je vais vous préparer une place, afin que lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyez, il est allé nous préparer une place, tout est en train de se mettre en place, mais quand tout sera en place, le dernier élément en place, Jésus viendra rapidement. Il ne tardera pas. Il viendra même comme un voleur dans la nuit pour ceux qui ne s'y attendent pas. Mais moi je crois, ce n'est pas écrit, mais je crois quand même que pour ceux qui aiment le Seigneur, pour ceux qui ont contact avec l'Esprit de Dieu, moi je crois qu'on pressentira quelque chose du retour du Seigneur. Ce n'est pas écrit, hein, mais il ne viendra pas pour nous comme un voleur. Mais nous voulons nous y préparer. Nous voulons nous y attendre, nous voulons aspirer. Vous savez, ici-bas, il y a des bons moments, il y a des moments de joie. On apprécie ce que le Seigneur nous permet d'avoir, de vivre. On apprécie la santé aussi. C'est précieux. Quand on est malade, on est conscient, on se dit, oh, que c'était bien quand je pouvais marcher, courir, quand je pouvais... La santé, c'est précieux. Et ce que Dieu nous permet de vivre, on l'apprécie. Mais notre cœur, il n'est pas ici-bas. Il est en haut. Il est en haut. Parce qu'il y a des bons moments, mais il y en a de mauvais. Il y en aura encore d'autres de mauvais. Et le retour du Seigneur, ça veut dire, ça y est, j'entre pleinement dans mon salut. Mon salut se réalisera pleinement. Là, je suis sauvé en espérance. Mais quand Jésus va revenir, je serai pleinement sauvé. Et même avec des corps glorifiés. Plus d'arthrose, plus rien. Des corps glorifiés. Se retrouver dans le ciel. Et je termine vraiment là. Quand Jésus dit « Je viens bientôt » au verset 20, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et la réponse, alors c'est la réponse de chacun de nous, c'est la réponse de l'Église. Amen, je suis d'accord, j'atteste, viens Seigneur Jésus, viens, viens. C'est synonyme aussi de la délivrance de l'Église, c'est synonyme de notre délivrance, c'est synonyme de la délivrance du péché, c'est synonyme de Jésus qui va régner, Jésus qui va entrer dans sa gloire. Tout a été, toute l'histoire de l'humanité s'est projetée pour arriver là, pour arriver au but final, la gloire de Dieu partout. Alors, ça nous dépasse, ça me dépasse, moi. Mais bon, on croit ce que le Seigneur nous dit. Et là, il est dit, en terminant, Dieu va terminer ces versets dans l'Écriture, « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, avec tous, Que la grâce soit avec tous. Nous l'avons chanté, cette grâce merveilleuse, imméritée. Sans la grâce, nous ne pourrons rien. Mais la grâce rend possible ce qui était impossible. La grâce, c'est un Dieu de grâce. Pas une grâce permissive, la grâce de Dieu, la véritable, que nous trouvons dans Tite au chapitre 2, à partir du verset 11. La grâce véritable, celle qui vient de Dieu, celle qui a coûté cher à Jésus, mais qui nous a ouvert le chemin. La grâce de Dieu, que nous puissions l'apprécier. Vous vous rendez compte, toute la Bible termine avec ce verset. Que la grâce soit avec vous tous, avec chacun, que la grâce. Alors, le livre de l'Apocalypse, comme toute la Bible, est un livre merveilleux pour le croyant. C'est un livre rempli de promesses, un livre qui nous a réconfortés tant de fois, un livre qui nous a relevés, qui nous a guéris pour certains. Il envoya sa parole et il les guérit. La Bible est un livre extraordinaire pour le croyant, mais pour le non-croyant, ça nous condamne. Alors ce matin, je vais faire un appel. Ce matin. Allô? Ce matin, je vais faire un appel. Voilà. C'est sérieux, la parole de Dieu, voilà. C'est un appel pour ceux qui ne sont pas encore dans l'arche. Pour ceux qui ne savent pas, qui ont des doutes. Moi, je veux prier pour vous, comme le Seigneur désire tellement vous sauver. Et je veux prier afin qu'il y ait un moment, un instant, où vous pouvez saisir cette grâce que Dieu nous a donnée. Oui, de la croix, la grâce coule comme un fleuve. Seigneur, je veux te bénir et je veux te louer de tout mon cœur. Seigneur, merci pour les paroles que tu as consignées dans ce livre. Ce sont des paroles de vie, de mort pour certains, mais de vie pour celui qui se tourne vers toi. Seigneur, je veux te prier de visiter chacun, chaque enfant, chaque ado, chaque adulte, chacun d'entre nous, Seigneur. Si nous devons revenir à toi, Seigneur, nous voulons le faire. Si quelqu'un veut venir au Seigneur ce matin, Seigneur, que ton esprit le presse. Mes paroles sont tellement limitées, mais ton esprit qu'il puisse le presser et lui dire, toi aussi tu as ta place, j'ai payé pour toi. Ah Seigneur, visite chacun des cœurs ce matin et qu'il y ait plusieurs qui soient sauvés au milieu de nous. Tu reviens bientôt, Seigneur. Tu reviens bientôt, tu nous l'as dit, encore et encore, Seigneur. Que personne ne reste sur cette terre de misère, subissant les fléaux. Non, Seigneur, mais que tous partent avec nous, Seigneur, à l'appel du roi des rois, Seigneur, et qu'ils participent aux noces de l'agneau. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que cet appel résonne et résonne encore tout au long de la journée, les jours qui continuent, Seigneur, jusqu'à ce que il se tourne résolument vers toi. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus.